Alors, de toute façon, je coupe les bouts. Alors, bonjour Jean-Michel, je suis vraiment content de te voir, parce qu'on se court entre guillemets après depuis très longtemps et un petit peu de ma faute. Là, en fait, je suis vraiment très content de discuter avec toi aujourd'hui, parce que tu as vraiment une vision qui est très très intéressante et un parcours qui est assez divers, puisque tu as travaillé à la RATP, à la Poste, chez Free, ADP, la SNCF. En plus, tu as une vision externe, puisque tu as quand même vu pas mal de situations, pas mal d'entreprises, pas mal de projets, pas mal de contextes, et j'aimerais savoir un petit peu quelle est ta vision là-dessus. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore?
Oui, bonjour Fred et merci beaucoup pour cet échange qui me ravit et très content d'y arriver. Effectivement, je suis directeur expérience client et relations clients de métier. Et j'interviens sur ce métier depuis pas mal d'années maintenant, au sein du groupe SNCF d'abord, et puis dans le groupe ADP, dans le monde des aéroports. J'ai ensuite effectué plusieurs interventions au sein de la Poste, hein, direction e-commerce, chez RATP Dev, la filiale de la RATP pour le développement à l'étranger et en province notamment. Et là, j'ai rejoint depuis quelques mois avec grand plaisir la direction des opérations de Free sur la relation abonnée.
Ah. En tout cas, avec cette vision un petit peu large, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment a évolué la relation client et en fait, quelle est sa contribution à cette fameuse expérience client, à la valeur ajoutée que l'on va apporter dans l'entreprise? Parce que on parle beaucoup du service client, c'est un des aspects. Et pour toi, c'est une des clés, en fait, pour justement créer cette expérience client, cet effet waouh, cette valeur ajoutée et cet attachement à la marque. Hein. Et à ton avis, qu'est-ce qui a bougé, en fait, depuis ces quelques années? Ça fait depuis une dizaine d'années que tu es dans le métier.
Ben, je pense que la réponse est presque dans la question. C'est un métier qui est assez passionnant, qu'il a évolué beaucoup ces dernières années. Je pense qu'il va encore, on en a encore sous le pied. D'abord, et beaucoup sous des aspects de technologie, d'outils, de tout ce que la transformation digitale met au service du métier. Et il y a énormément d'innovations, il y a énormément de réflexions aussi sur comment utiliser les outils. Et tu en sais quelque chose puisque tu fais partie des experts de ce domaine-là. Et ça nous a permis de transformer l'expérience de nos clients dans plein de domaines, mais il y en a encore à faire, que ce soit dans le B2C, que ce soit dans le B2C avec. Et je pense que c'est une des nouvelles frontières aussi. On a un métier donc qui s'est transformé par les manières de travailler. Et une de ces transformations, c'est aussi d'avoir mis en évidence mieux qu'avant la contribution de la relation client à la valeur ajoutée de l'entreprise, justement. C'est pour ça que je disais que la réponse était dans la question, parce que on vient peut-être un métier où parfois on était. Allez,
Un
pas la
centre
cinquième
de
roue du
coût.
carrosse, mais
Ouais, un
un
centre de
centre de
coût. Ouais.
coût, un service d'appui, je sais pas, plein de mots sympas. Et puis, on a découvert que c'est là aussi qu'on pouvait faire la différence, c'est là aussi qu'on pouvait gagner des parts de marché, c'est là aussi qu'on pouvait faire mieux que nos concurrents, qu'on pouvait observer ce qui se passait, et pas seulement dans notre secteur, mais dans d'autres secteurs. C'est pour ça que c'est intéressant aussi d'aller voir tout ce qui se passe dans le métier, parfois un petit peu loin. Et puis, ça, petit à petit, transformation presque plus récente, même si elle a toujours été une sorte de fil rouge du métier, mais un métier très humain, et où l'humain tient une place essentielle, et où finalement, à mon sens aujourd'hui, la modernité, c'est de donner toute cette place à l'humain, et pas seulement à la transformation par l'outil, il ne faut pas la négliger, il ne faut jamais l'oublier. Mais voir que c'est vraiment ce qu'on en fait et les personnes qui sont à la manœuvre, qui répondent à nos clients, qui sont là pour faire mettre de la valeur dans la marque finalement.
C'est vrai parce que souvent on se dit que bah, le centre de contact, c'est la dernière ligne de défense avant que le client quitte l'entreprise parce que Quand il y a un problème, en particulier, je pense que chez Free, c'est le cas, quand il y a un problème technique, si la hotline elle est là pour rattraper le coup, aider le client, le rassurer, lui proposer des solutions, là, en fait, ben, le client peut rester. Par contre, si la hotline n'est pas efficace, et le service derrière n'est pas efficace, à ce moment-là, en fait, ben, le client peut se dire, mais j'en ai marre, je vais changer de service, etc. Et c'est là, en fait, que c'est cette fameuse dernière ligne de défense, mais aussi le fer de lance du service client, parce que quand le client est bloqué, ben, il n'a plus qu'une chose à faire, c'est donnez-moi de l'aide. Et je crois justement chez Free, c'est quand même assez intéressant parce qu'il y a vraiment des politiques d'innovation au niveau du service client. Donc il y a eu la visio qui a été mise, je pense, dans un des premiers services clients de grande taille où il y a eu la visio. Et aussi, il y a une décentralisation maintenant des services clients. Ça, on le voit maintenant, c'est plus un service client qui est centralisé, mais il y a des services de proximité locaux. Ça, justement, c'est assez original chez Free.
Oui, c'est vrai que dans les télécoms en particulier, la relation client est un des facteurs de différenciation essentiels. Parce que voilà, il y a aussi évidemment des différences d'offres, mais il faut savoir les accompagner. Et puis la qualité de service, comme tu l'as très bien dit, tout au long de l'utilisation, bah, c'est du quotidien. Et en plus, on est sur un service. Je ne vais pas dévoyer un mot qui a été utilisé pendant le Covid, mais on est sur un service essentiel. On peut pas se passer de son téléphone qui fonctionne. On peut pas se passer de sa ligne sa connexion Internet. Donc, c'est évidemment fondamental. Et quand on a un sujet, il faut obtenir une réponse simple, rapide, efficace. Donc, dans tous les compartiments du jeu, dans ce secteur, c'est essentiel. Et bah, j'en veux pour preuve que c'est d'ailleurs un métier qui pèse lourd dans le secteur et dans un groupe comme Free, la relation client, elle n'est pas loin de peser 20-25% quasiment des effectifs du groupe. Donc, ça dit aussi quelque chose. Et en termes d'innovation, tu as tout à fait raison, et j'insiste une fois encore sur la dimension humaine de cette innovation dans les interactions avec les abonnés, parce que nous parlons d'abonnés, puisque nos clients sont des abonnés. Et dans cette relation, on va trouver cette innovation, notamment effectivement dans cet exemple de la proximité. Ça fait maintenant quelques mois que se développe, a été expérimenté, se développe petits hubs de proximité qui sont notamment dans les grandes agglomérations avec des petites équipes de conseillers dont le portefeuille d'abonnés est à proximité. Mais c'est aussi dans tout l'accompagnement, dans les centres de contact, dans tout l'accompagnement que l'on peut faire de nos collaborateurs pour qu'ils montent en compétences et pour qu'ils se sentent bien dans leur métier. Et en fait, quand on veut faire de la fidélisation client, ce qui est le sujet que tu évoquais, bah pour moi, et je l'ai vu, je le vois évidemment de manière très forte chez Free, mais je l'ai vu dans d'autres environnements, ce qui est clé, c'est de faire de la fidélisation de nos collaborateurs, de nos conseillers. Et c'est, on parle souvent du gagnant-gagnant, mais c'est du gagnant-gagnant-gagnant, gagnant pour le collaborateur, donc gagnant pour l'abonné, pour le client, et donc gagnant pour l'entreprise.
Justement, comment on développe cette fidélité des collaborateurs? Parce que le métier de conseiller au centre de contact ou même d'intervenant sur le terrain, ce n'est pas des métiers qui sont valorisés. On voit très bien que les gens, déjà, il n'y a pas de diplôme de conseiller, téléconseiller au centre de contact, alors qu'il y a des dizaines de milliers d'emplois. Ce n'est pas des emplois non plus qui sont forcément très valorisants. Il y a personne qui dira, bah, je suis très content, je travaille au centre de contact de telle entreprise. Comment on fait justement pour faire que les clients soient, enfin, les collaborateurs soient fiers de travailler pour l'entreprise? Comment peut-on faire pour qu'ils soient engagés? Et comment on fait pour développer cette culture client, faire en sorte qu'on est là vraiment pour aider le client? Et cette culture, c'est vrai que quand elle est vraiment présente, on se rend compte que bah, les clients, ils ressentent cette fameuse envie d'aider.
Complètement, je ne peux que souscrire. Eh bien, en fait, des leviers, soyons modernes, on en a plein, même si, volontairement, soyons modernes, parce qu'on les connaissait sans doute déjà, mais il fait partie déjà de la culture d'entreprise elle-même, de les mettre en avant et de les valoriser. Et je pense au levier, de l'évolution interne. C'est un métier où on peut favoriser l'évolution interne, et si on sait le faire, c'est un facteur de fidélisation très important. La formation, formation initiale, tu l'as dit, il n'y a pas forcément des diplômes toujours hyper spécifiques. Eh bien, investissons dans la formation, y compris en travaillant, en commençant par travailler sur des contrats de professionnalisation, et ensuite de pouvoir accompagner les collaborateurs dans leur évolution, dans leurs envies, savoir célébrer les résultats, savoir se fixer des objectifs et quand on les atteint, savoir remercier et savoir le dire et savoir célébrer et créer à la fois de la reconnaissance individuelle et de la reconnaissance collective d'équipe. Donc, ce que je décris, c'est les fondamentaux d'un bon management, mais pour moi, c'est résolument moderne parce que n'oublions pas que quoi que fasse un très bon outil, une très bonne interface, quoi que fasse une très bonne intelligence artificielle, bah, l'intelligence collective et bien humaine, c'est finalement très moderne. Et si on travaille ces leviers-là, moi je le constate, c'est pas que des mots, si on travaille ces leviers-là, eh bien, on a des collaborateurs plus satisfaits, et d'ailleurs nous on développe une enquête régulière, mensuelle, de satisfaction des collaborateurs qui ressemble furieusement à NPS.
NPS, avec employeur, promoteur score, c'est vrai qu'il existe
voilà,
aussi.
Voilà. on en est très proche. Et derrière, évidemment, bah, ça se ressent dans l'envie et l'empathie que le collaborateur et le conseiller, en l'espèce, va développer vis-à-vis du client au quotidien. Alors évidemment, hein, comme dans tout métier, comme dans toute vie, il y a des moments un peu moins faciles. Mais vraiment, c'est des leviers qui sont pour moi aujourd'hui ceux où on peut faire la différence et où on peut refaire la différence, sans négliger évidemment la qualité de l'environnement, les outils, etc. Parce que un bon ouvrier doit avoir de bons outils, disait ma maman.
Ouais. Mais justement, l'INPS, hein, l'employé Net Promoter Score, qui permet en fait d'écouter le collaborateur, donc c'est très positif. Parfois dans certaines entreprises, c'est souvent considéré comme de la communication. Comment fait-on pour que les collaborateurs se sentent vraiment écoutés? Est-ce que par rapport à leur remontée, il y a des plans d'action? Est-ce que vous avez mis en place, par exemple, un parcours de formation? Parce que moi, je le vois souvent, c'est que quand on fait une formation, eh bien, en fait, souvent, on a l'habitude, ça y est, ça va fonctionner pendant 2, 3, 4, 5, 6, 7, X semaines, puis après, on reprend le train-train habituel. Comment on fait que ces formations deviennent en fait un réflexe inné directement aux collaborateurs et comment on crée ce levier de confiance? Est-ce que grâce aux enquêtes NPS que vous faites, vous êtes transparent, vous faites un baromètre, vous envoyez une enquête, entre guillemets, ce qu'on appelle les enquêtes pulse, en disant, bah, tiens, voilà, vous nous remontez tel truc, il y a telle chose qui t'ont mis en place, est-ce qu'il y a un indicateur qui est envoyé aux collaborateurs? Comment on fait justement pour, montrer que cet engagement vers le collaborateur n'est pas que des mots, et deux, en fait, comment fait-on pour que les formations deviennent un réflexe pour tous les collaborateurs au quotidien?
Oui, alors tu as complètement raison, hein. Et d'ailleurs, on est bien dans cette, on est exactement dans la démarche que tu décris, et ça ne sert à rien si on n'utilise pas. Et c'est même contre-productif que, comme avec le client d'ailleurs, hein, si on demande avis au client mais qu'on ne tient pas compte de son avis, ça assez vite compte en général et il a du mal à revenir. Ben finalement, avec les collaborateurs, c'est pareil. Donc, effectivement, il faut de la confiance et pour avoir de la confiance, il faut le maximum de transparence. Alors après, attention, hein, quand on est sur des verbatims individuels, il peut y avoir des cas particuliers et il s'agit de les prendre comme tels. Mais et donc, faut d'abord écouter. Quand je dis écouter, c'est lire tous les verbatims, les partager au niveau managérial. Donc ça, c'est la partie analyse et écoute. C'est effectivement la transparence sur les résultats. Et après, c'est l'action. Et l'action, c'est un retour sur un maximum de plans d'action. Alors, je dis un maximum parce que on peut pas toujours tout faire et que le métier du manager, c'est aussi de prioriser. Prioriser pour des raisons de moyens, de temps disponible. Et donc, les plans d'action, il est essentiel. Alors, ça, c'est des fondamentaux qui, d'ailleurs, ne sont pas valables que dans ce domaine-là. Au regard de mon expérience, il est essentiel de prioriser en pondérant les sujets, mais il est essentiel d'avoir des plans d'action et d'avancer. Donc, on a des outils qui s'appellent, par exemple, des forums d'écoute, qui s'appellent… C'est une manière finalement aussi de faire de l'amélioration continue. Et cette amélioration continue, elle est évidemment sur le management, mais elle est aussi dans ses remontées quand on écoute les collaborateurs. C'est aussi la voix du client, la voix de l'abonné, au travers de la voix du collaborateur. Donc, on retrouve l'intérêt du client parce que ça peut être des sujets qui portent sur la formation, sur les conditions de travail, mais ça peut être aussi des sujets qui portent sur les process, l'amélioration des réponses apportées au client, pourquoi pas l'amélioration d'un outil. Donc, on va retrouver l'ensemble du métier. Et alors, pour revenir sur les formations, oui, évidemment, un levier essentiel. Là aussi, en priorisant, ce qui est important, c'est de faire de l'accompagnement un petit peu sur mesure, ciblé. On va retrouver la priorisation. C'est d'arrêter de faire la formation. Bien sûr, il y a des fondamentaux, il y a des nouveaux process, des nouveaux produits, et là, il faut faire des choses un peu plus longues pour tout le monde. Mais c'est de savoir faire le module adapté qui va bien, adapté aux collaborateurs et à un besoin spécifique, un besoin quasiment individualisé. Et ça, pour moi, c'est un des leviers, une des manières de travailler qui est importante pour produire du résultat efficace et pour surtout qu'on ait un retour sur investissement, en l'occurrence un retour sur écoute qui soit efficace. Alors évidemment, hein, je le décris comme ça, ça a l'air facile, tout n'est pas facile au quotidien, mais on peut vraiment travailler comme ça et finalement, faire du sur-mesure, c'est aussi un moyen de faire dans l'économie de moyens, mais au sens positif du terme, c'est-à-dire de ne pas… aller développer par exemple des formations, des modules qui ne soient pas nécessaires à certains collaborateurs et qui peuvent être contre-productifs, c'est-à-dire on me saoule avec des choses dont je n'ai pas besoin. Donc faut vraiment, donc finalement c'est un peu plus compliqué peut-être dans le travail d'analyse, dans le travail de mise en œuvre, mais au final ça permet d'être quand même beaucoup plus efficace et beaucoup plus pertinent en fait.
Ouais, c'est vrai que j'avais vu ça, c'était chez Malakoff Médéric, et en fait, c'était lors de la soirée de lancement du livre de Daniel Rey et Guillaume Antonietti, Culture Client. Et il disait, la personne de Malakoff Médéric, ils avaient laissé tomber, entre guillemets, les grosses formations monolithiques pendant un jour ou deux où on apprenait les fondamentaux de la relation client, et ils étaient passés plutôt à un système comme tu le fais, de coaching, c'est-à-dire qu'il y a un suivi pendant X semaines, je crois que c'était 5 ou 7 semaines, et tous les matins, il y avait un petit débrief, il y avait un partage d'un retour d'expérience client, je crois que c'était la minute ou les 5 minutes du client, où il disait, tiens, il y a un truc qui s'est passé, machin, etc. Et il y a un petit coaching, un suivi, et le fait d'avoir en fait comme ça une séquence régulière, ça permettait de transformer justement une formation en fait en un réflexe inné. Ça, c'est vrai que c'est super intéressant. Je voulais juste revenir sur la partie exploitation des retours collaborateurs. Est-ce que tu peux nous donner en fait un exemple justement de ce qui a été mis en place suite à ces retours? Parce que je sais que tu l'as dit, c'est difficile de prioriser, les collaborateurs demandent peut-être un certain nombre de choses. Qu'est-ce que toi, tu vous avez mis en fait de concret suite à ces fameux retours? Est-ce que c'est des changements d'outils, de process? Est-ce que vous avez revu certaines offres? Quelles ont été les choses vraiment marquantes qui les gens se sont dit waouh, ah, je suis écouté, on met des choses en place et ça a vraiment donné de l'efficacité soit aux équipes, soit une meilleure satisfaction des collaborateurs, des clients finaux, des abonnés?
Alors, j'ai encore un peu de recul, hein, donc mon expérience est à la fois grande et limitée. Il y a des éléments qui peuvent porter sur l'organisation de la production. Par exemple, l'organisation du travail.
Le planning.
Donc, la gestion des pauses. La gestion des journées et des semaines, d'avoir certaines variations dans la planification qui peuvent varier d'une journée à l'autre et d'essayer de faire des semaines à peu près homogènes pour l'organisation du travail des collaborateurs. Je ne sais pas si c'est très clair mon explication, mais voilà, sur des variations, faire que ces variations ne soient pas à la journée, mais par exemple à la semaine, pour faciliter l'organisation à la fois professionnelle et personnelle du collaborateur. Donc ça, c'est des éléments d'adaptation de la planification dont on a pu prendre conscience grâce à des remontées des collaborateurs et qui demandaient un petit peu d'ingénierie au niveau de la planification, mais qui finalement étaient tout à fait faisables et là encore gagnant-gagnant.
Je me souviens que justement dans le domaine aérien, j'avais eu la même chose avec une personne qui était responsable de la relation client et du service client dans une petite compagnie aérienne, et elle me disait que les collaborateurs avaient énormément apprécié son travail parce qu'elle était capable de s'adapter, de prévoir un planning un peu plus long, de s'adapter un petit peu aux contraintes et de jongler avec les agendas. Et elle disait, pour moi, c'est beaucoup de travail, mais pour les collaborateurs, c'est vraiment quelque chose qui a changé. Et ils disaient, oh merci, c'est vraiment sympa avec toi. Au moins, on n'est pas contraint avec l'agenda, on n'a pas des surprises de dernière minute. Et quelque chose qui peut sembler une évidence, enfin, quelque chose qui peut ne pas sembler être important, et ben pour eux, finalement, ça avait énormément d'importance et ça permettait d'améliorer leur morale, leur qualité, leur motivation. Et c'est vrai que quand cette personne qui était en contrat est partie, tout le monde s'est dit, ah, tu vas vraiment nous manquer parce que toi, au moins, tu pensais à nous. C'était ouais, tu penses vraiment à nous et tu penses qu'on est important. Et ça avait vraiment fait la différence dans son travail.
Je souscris à 100%.
Alors, on parle aussi souvent, là, on a parlé donc des collaborateurs. Les collaborateurs, souvent, ben, ils sont capables de faire passer de l'émotion. Hein, c'est là l'intérêt de l'humain par rapport aux machines. On parle souvent d'émotion comme facteur de différenciation, et différenciation, et qu'un collaborateur content est égal à un client content. Qu'est-ce que tu penses de cette maxime-là? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas tout à fait vrai? Comment on fait en sorte que, justement, ça soit pas juste du. Comment dire, de la communication, et que c'est vraiment cette espèce de dire oui, un client, un collaborateur content, ça fera forcément un client content.
Bah, je crois que c'est tout à fait vrai. Là encore, comme toute règle générale, elle souffre ses exceptions. Et puis, à l'impossible, nul n'est tenu. Et on a parfois des situations clientes peuvent être compliquées. Mais évidemment, le fait de pouvoir. En fait, pour moi, ce qui est clé, c'est qu'un collaborateur puisse avoir se préoccuper du client. Le comprendre sa situation, son environnement. Et je fais beaucoup, dès que je peux, de la double écoute. Et on comprend très vite en écoutant que la manière dont un client va être accueilli va tout changer. Et cette manière, c'est pas un script parfait, prédéfini. Bien sûr, il faut des procédures, bien sûr, il faut des diagnostics, et il faut de la réponse sur le fond. Mais sur la forme, on va déminer une situation qui peut être compliquée pour un client en abonné en lui faisant tout de suite comprendre qu'on va le prendre en charge. Et donc, c'est ce qu'on appelle communément le care en mauvais français. Mais c'est très, très concret. C'est concret dans la manière d'aborder un client. Et pour ça, bah pour ça, il faut être bien dans ses baskets, il faut être bien dans son job. Si on n'est pas content d'être là, on peut se forcer c'est difficile, ça va aller sur quelques appels. Il faut vraiment aimer son job et avoir de l'appétence et son produit pour être efficace, pour être le meilleur possible dans ce métier. Donc pour moi, voilà, ça va se travailler par le fait aussi de partager des éléments de la culture d'entreprise, mais de partager du sens aussi, d'expliquer ce qui se passe, d'expliquer les offres, d'expliquer les produits. C'est peut-être des évidences que je dis, mais il faut bien bien l'avoir dans la checklist et il faut bien prendre le temps de le faire. Et donner du sens, c'est pas seulement d'écrire une offre, mais expliquer pourquoi elle évolue. On est dans un environnement, tu l'as un peu dit tout à l'heure, les télécoms qui sont très tournés, alors a fortiori, singulièrement chez Free, tournés sur l'innovation, l'évolution permanente. Et donc, il faut pouvoir aussi expliquer ça, et pas seulement sur le plan technique, hein, encore une fois, sur le plan très pratique, mais sur le plan du sens de voilà les avantages que va en retirer un client, voilà les difficultés qu'il peut rencontrer, voilà comment y répondre, et donner beaucoup voilà, se préoccuper de nos collaborateurs pour qu'ils se préoccupent du client. Je ne saurais mieux dire.
Ouais, s'ils se sentent considérés, forcément, ils vont faire leur meilleur. Alors, justement, ça résonne en moi, puisque il n'y a pas très longtemps, justement, j'avais ce même échange-là avec Benoît Méronin, qui est justement l'auteur du concept du CARE. Et c'est vrai qu'il me disait qu'il y avait comme ça différents profils de conseillers. Il y avait, par exemple, le conseiller que. qui est en fait, entre guillemets, la personne qui essaye vraiment d'aider les gens. Il y avait aussi le conseiller qui est plutôt formaliste et qui est procédurier. Il disait bien que bah voilà, il y avait différents profils et selon les différents profils, il y avait des gens qui étaient plus ou moins orientés clients. C'est également ce que raconte en fait Daniel Rey et Guillaume Antonietti dans leur livre Culture Client. Il y a ces différents profil, et c'est vrai que ils ont une méthode qui est assez intéressante, c'est avec le COS, Customer Orientation Score, c'est qu'ils sont capables en fait d'aller mesurer la culture client de l'ensemble de l'entreprise, mais également d'aller au service et à l'individu même pour savoir les personnes qui sont orientées clients et ceux qui ne sont pas orientés clients, bien entendu, bah, essayer de les coacher, leur expliquer comment mieux travailler, mieux penser client. Et est-ce que tu fais quelque chose comme ça? Est-ce qu'il y a une mesure comme ça de l'orientation client? Est-ce que lors des recrutements, vous avez comme ça une évaluation de l'orientation client des collaborateurs? Et comment on fait justement pour changer cette culture client et faire en sorte que des gens qui sont, bah, ils n'ont pas choisi ce métier dans beaucoup de cas. Et c'est vrai qu'il y a des gens comme ça qui sont très orientés clients parce que c'est quelqu'un qui aide, c'est des gens qui aiment rendre service. Comme moi, je sais que je suis quelqu'un comme ça au support technique, je voudrais beaucoup rendre service alors que je connais d'autres de mes amis qui sont un petit peu bourrus, un petit peu informaticiens, faut faire ci, faut faire ça. Et c'est vrai qu'ils sont efficaces, mais ils n'ont pas cette proximité, cette empathie client. Justement, alors, comment ça se passe chez Free? Est-ce que justement, il y a une mesure de cette culture client? Comment on fait pour justement améliorer la culture client? Et pourquoi pas, est-ce qu'en phase de recrutement en amont, vous pouvez faire quelque chose, sachant que je sais très bien que le métier de conseiller, c'est très dur de recruter. Il y a un turnover qui est fou. Je sais qu'il y a pas mal d'entreprises aussi qui ont des onboarding process, hein, qui sont là pour essayer de justement retenir les clients, essayer de voir ce qui ne va pas, etc. Qu'est-ce que vous faites pour tout cet aspect-là, culture client, onboarding, fidélisation? Est-ce qu'il y a des choses que tu mets en place chez Free ou que tu as mis en place dans d'autres entreprises?
Effectivement, je pense qu'il y a un moment clé qui est le recrutement quand on recrute et voilà selon les périodes et là on va travailler sur identifier le plus possible des soft skills comme on dit qui vont correspondre à ce qu'on a identifié comme le plus proche de ce qui va aider à être bien dans ce métier. Mais après, c'est vrai que c'est aussi dans l'accompagnement qu'on va travailler ça. Et notamment, pour moi, on s'est pratiqué chez Free, j'ai eu aussi l'occasion de travailler dans d'autres environnements. C'est un double référentiel. Alors, pardon pour le mot de référentiel qui peut faire un petit peu procédurier, mais il y a un moment où il faut avoir des références qui soient partagées et qui puissent être communiquées et co-construites le cas échéant avec les collaborateurs. Et donc, quand je dis double référentiel, c'est d'une part pour la culture client un référentiel des moments de vérité du client, du parcours client. Alors, nous, on va parler de parcours abonné. Et ça fait partie des fondamentaux du travail de diagnostic pour améliorer le parcours client, en l'occurrence dans son parcours de relation à distance, mais ça vaut pour d'autres compartiments du jeu de l'expérience client. Et donc, on a fait ce travail de définir les moments de vérité, les moments clés d'un parcours d'un abonné qui vont aider à comprendre la situation émotionnelle d'un abonné et à partager ça. On va travailler l'amélioration continue après, hein, parce que c'est pas une science tout à fait exacte. Donc, on peut améliorer cette compréhension, notamment par l'écoute dont je parlais tout à l'heure, par l'écoute des collaborateurs. Ils vont dire, attendez, là, vous avez défini que c'était comme ça, mais peut-être que la vérité, là, on peut la mettre un peu à jour. Et puis, de toute façon, ça vit avec les offres, ça vit avec le marché, ça vit avec l'exigence du client qui évolue. On le sait bien par les expériences que le client peut avoir ailleurs, chez des concurrents dans d'autres secteurs. Et ensuite, on a le parallèle sur les moments de vie du collaborateur. Et ça, je pense que ça, c'est peut-être plus original. Je pense que tout le monde ne le fait pas. On va avoir une forme de symétrie entre les deux, mais il y a une limite à la symétrie. La symétrie, c'est surtout celle de l'analyse, celle du travail, celle du temps passé. Il faut passer autant de temps à travailler sur ces moments du parcours collaborateur que l'on passe sur le moment du parcours client. Et ça va se retrouver. Et donc là aussi, on va mettre des preuves dans ce qu'on affirme et dans ce qu'on demande, dire voilà, on demande que tel et tel souci du client, et voilà comment ça se traduit concrètement, et discutons-en. Et puis, on montre aussi que l'on sait avoir la même préoccupation vis-à-vis des équipes, de manière individuelle et collective, hein, j'insiste, parce qu'on est dans un métier où le collectif importe beaucoup, où le fait de se soutenir, c'est quelque chose qui remonte beaucoup dans les verbatims des équipes, le fait d'avoir des équipes solidaires, des bonnes ambiances, de travail, et d'avoir ces relations de avec des objectifs qui sont aussi partagés de manière collective est fondamental. Et voilà, donc c'est des outils qui à la fois permettent de mettre de la méthode, de mettre de la formalisation, et puis qui permettent de donner du sens et d'aligner. Quand on parle culture client, le risque, c'est que chacun ait la sienne. C'est que très vite, on se dise, moi, je le vois un peu comme ça, je le vois un peu comme ci. Et donc, il y a un moment où il faut aussi formaliser pour converger. Et ça, pour moi, ça fait partie des leviers où on va donner du sens et où, si tout va bien, et pour revenir à ta question de base, le collaborateur peut comprendre mieux ce qu'on attend de lui et pourquoi, et avoir envie d'y aller et y croire, parce que c'est pas seulement juste les trois mots qu'on a tout en haut de la charte des valeurs, mais on sait le dire. Alors ça, encore une fois, hein, tout ça est facile à dire, et puis à faire, c'est de l'investissement quotidien et c'est de l'engagement quotidien managérial.
Alors justement, comment ça se manifeste de manière concrète? Est-ce que, par exemple, vous avez une newsletter interne du service client où j'ai vu dans certaines boîtes qu'il y avait les best failures, où on racontait une situation qui s'était mal passée et finalement, le collaborateur avait finalement retourné la situation et le client était sympa? Est-ce qu'il y a une réunion de service où on discute des verbatim? Comment ça se met? Est-ce qu'il y a un mur des verbatim? Je l'ai déjà vu dans certaines entreprises, à la cafétéria ou sur le mur du service client, des verbatim. Comment ça se manifeste justement ce retour client, cet engagement, cette valorisation des bonnes pratiques? Parce qu'on voit bien entre la carotte et le bâton, souvent, c'est plutôt se dire la carotte en disant tiens, regardez, celui-là, il fait bien, c'est comme ça qu'il faut faire, faites-le. Plutôt que le bâton où les gens se disent « Ah là, il faut que je dise oui, merci, à la fin, je dois faire le scénario ». Comment ça se manifeste, que ce soit chez Free ou dans d'autres services clients? Comment tu fais pour justement donner le bon cap?
Alors, le mur des verbatim, ou en tout cas le fait de pouvoir afficher quelque part un certain nombre de verbatim et de les partager, on va dire chaque semaine, les tops et les flops, c'est toujours important parce que ça permet aussi de je parlais tout à l'heure de convergence, de montrer et parfois de sourire, et ça fait du bien. On le pratiquait notamment à la Poste, à la direction e-commerce, c'est quelque chose que qu'on avait mis en place là-bas. Aujourd'hui, il y a un outil qui peut très bien marcher et permettre aussi ce partage-là un peu à dimension variable et déconcentrée. C'est un réseau social interne. C'est ce que nous utilisons de manière très active chez Free et qui va et permettre…
Facebook Work, ou vous aviez un autre outil? Parce que je sais
WordPress.
Oui, WordPress, d'accord.
Et donc, c'est… beaucoup utilisé, ça permet d'échanger effectivement des résultats de qualité, des retours clients, des réponses aux retours clients, des évolutions très spot de process, etc. Donc, à la fois le court terme et puis des sujets d'un peu plus long terme. Et puis, ça va permettre aux équipes, et quand je dis à dimension variable, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent être échangées au niveau de l'ensemble, on va dire national, des équipes, mais il y a aussi la vie de chaque centre, il y a la vie des plateaux, et ça permet aussi d'avoir des communications qui soient adaptées aux différentes situations et un peu sur mesure. Et ça, je pense que c'est un outil à maîtriser parce qu'évidemment, ça donne énormément de possibilités, mais quand ça prend. C'est vraiment extrêmement riche pour être. On n'est jamais seul, en fait.
Ouais.
On n'est jamais seul. Et je pense que c'est un métier où il faut faire attention à ce qu'un collaborateur ne soit pas seul face au client.
Ouais, qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit là pour l'aider, partager, au moins, qu'il
On a
puisse
besoin.
partager son stress et dire c'était dur aujourd'hui, ou au contraire, waouh, j'ai fait un super truc aujourd'hui, je suis super content.
L'autonomie n'exclut pas le partage et le soutien. Et le soutien, c'est le soutien managérial, mais c'est aussi le soutien des collègues un peu plus aguerris. C'est aussi le soutien des voilà, il y a les supports et il y a des expertises qui sont complémentaires. Et ce type d'outil permet de connecter les expertises extrêmement de manière extrêmement fluide.
Oui, mais c'est vrai que ces communautés en ligne, enfin, communauté, je ne sais pas si on peut appeler ça une communauté en ligne, cet espace d'échange, cet espace collaboratif d'entreprise, ça permet donc aux personnes de poster, mais aussi de réagir derrière. Et ça, c'est vrai que c'est un moyen de, bah de comme tu l'as dit, de fédérer les gens, de montrer qu'il y a des choses qui se passent, de partager des choses et d'avoir des retours et de dire on est une équipe, quoi. On est vraiment une équipe.
Exactement.
Okay. Alors, je crois que ça fait déjà un petit moment qu'on discute et tu vas avoir un rendez-vous dans pas très longtemps. Si tu peux nous donner un petit mot de la fin, pour toi, quelles vont être les tendances à venir et qu'est-ce qu'on doit anticiper pour l'année à venir? Sur quoi il faut miser et quelles sont les petites tendances relations clients? Alors, quelles sont, bon, sans dévoiler bien sûr tout ton plan de l'année à venir, mais à ton avis, sur quoi il faut miser? Quelles vont être les priorités? Quelles sont les évolutions à anticiper? Tu l'as dit, les besoins clients, les attentes des clients évoluent sans cesse, et moi je le vois. Hein, les gens détestent attendre au téléphone. Je sais que je ne suis plus la norme NF maintenant, je ne sais plus combien, 7 minutes, je crois que c'est 2 minutes, 3 minutes d'attente téléphonique. Et en fait, avec l'excellence, la réactivité de nombreux services clients, ça devient de plus en plus. Ce qui était en fait un luxe il y a 2 ans est devenu la norme maintenant. Qu'est-ce que tu préconises et sur quoi en fait tu préconises de travailler pour justement améliorer cette expérience client? Quels sont les canaux? Quels sont les outils? Quelles sont les bonnes pratiques? Est-ce que c'est les tendances en fait à exploiter? Est-ce que c'est le messaging? Est-ce que c'est la vidéo? Est-ce que c'est l'automatisation? Est-ce qu'on va plutôt travailler sur l'humain? Quelles sont pour toi les tendances sur lesquelles il faut vraiment poser en fait ces efforts?
Question toujours extrêmement difficile. Et je vais commencer par répondre par une pirouette qui est de dire que pour moi, la première tendance, c'est l'augmentation de l'incertitude sur les tendances. Bon, on sort du Covid, on a vu qu'on était disrupté par plein de conditions qu'on n'aurait jamais imaginées. Alors, on espère qu'on ne va pas avoir des crises comme celle-là tous les 4 matins, mais on a appris aussi l'humilité, je pense, dans ce métier et dans beaucoup d'autres, dans un métier qui d'ailleurs a été aussi valorisé par la situation, parce qu'on a vu à quel point c'était important de pouvoir d'avoir de la relation à distance de qualité. Et donc, pour moi, la première tendance, c'est de développer l'agilité, hein, pour être un petit peu plus concret, et donc de savoir s'adapter vite et d'adapter. Et là, je réponds de manière générale. Hein,
plus d'autonomie aux conseillers ou c'est des outils qui sont plus agiles?
Alors, ça peut être, oui, je le vois beaucoup dans les process d'adaptation aussi des équipes, et que ce soit d'ailleurs côté relations clients ou côté marketing, expérience client, et sur l'ensemble des métiers qui convergent et qui travaillent pour inventer et essayer de pouvoir s'adapter rapidement à des besoins clients qui évoluent de manière inattendue. Ce que je veux dire, c'est que on pouvait avoir des plans dans les cartons et dire voilà ce qu'on va faire pour nos clients, et là les clients vont nous dire ce qu'on doit faire. Tu vas me dire, c'est pas nouveau, mais je pense que cette tendance s'accélère. Sur les outils, l'automatisation, le self-care client, je préfère le dire comme ça, est évidemment une tendance longue et il n'y a pas de raison qu'elle se ralentisse. Néanmoins, elle a évidemment ses limites et à mon sens, la différenciation, mais je l'ai déjà un peu dit tout à l'heure, mais la tendance, c'est que la différenciation va justement se faire sur le Le self-care, c'est un must-have. Et la différenciation va se faire sur tout ce qui ne va pas rentrer dans le self-care, de savoir encore être là, être présent, être joignable, là où le client a besoin de nous et quand il a besoin de nous. Et donc, je viens au canot, alors difficile, je suis pas Madame Soleil, mais de manière très, très simple, ma conviction, c'est qu'on va rester sur un équilibre de voix où on le voit d'ailleurs, y compris dans l'automatisation avec le développement des voice bots, qui est aussi une certaine tendance. Et on la voit pour la facilité et avec des devices qui sont aujourd'hui mobiles, faciles, etc., la voix reste un impondérable, une valeur sûre. L'écrit, mais sous une forme différente, le mail n'est quasiment plus là. Et en revanche, via le messaging. Le messaging sous différentes formes, WhatsApp, des outils qui sont plus in-app, etc., et qui donne ce mélange de synchrone et d'asynchrone qui, à mon avis, correspond bien aux usages du moment des clients et à une facilité d'utilisation sur laquelle il faut être présent parce que voilà, on peut communiquer tout de suite, mais on peut aussi avoir un petit peu de temps et ça permet de répondre à des situations multiples. Donc moi, je vois bien ces deux piliers là et donc pour répondre, la vidéo, oui et non. Peut-être la vidéo comme un supplément au messaging quand nécessaire, mais seulement quand nécessaire.
Ouais, c'est pas le must-have. Les gens ne réclament pas ou n'ont pas forcément besoin d'avoir quelqu'un en face de soi. S'il y a quelqu'un qui est réactif et qui répond, c'est déjà la clé.
Je pense qu'il faut être sur les fondamentaux de comment je réponds aux besoins du client. Et donc peut-être que là-dessus, je suis pas. Je sais qu'il y a des avis contraires, mais pour moi, c'est pas forcément c'est du supplémentaire, mais c'est pas forcément critique. Mais c'est déjà pas mal de faire très bien les piliers, les fondamentaux. Et ça, je pense que aussi dans les tendances. Alors voilà, je veux pas enfoncer de portes ouvertes, mais. On parlait tout à l'heure de l'essentiel. Le Covid nous a appris aussi parfois à revenir à l'essentiel. C'est peut-être résolument moderne et innovant que de dire je dois répondre aux fondamentaux de mon client. Et c'est pas forcément en lui ouvrant 15 canaux et.
Ouais, si on répond mal, ça sert à rien au contraire.
Il faut répondre bien, il faut être simple aussi. Je pense que la lisibilité, la facilité d'accès est un point clé. Alors, une fois qu'on a dit ça, j'ai pas répondu complètement certainement à la question et j'ai pas la formule magique. Mais je vois bien les tendances comme étant de ce côté-là pour quelque temps.
Ouais. Merci en tout cas, Jean-Michel, pour cet échange qui était vraiment passionnant, très intéressant. Je te remercie beaucoup pour tes retours, tes bonnes pratiques et tes conseils. Et je te souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour un prochain échange. Encore une fois, merci pour cette richesse.
Merci à toi et très bonne fin de journée.
Au revoir.